balade du week-end. Pour la balade de ce week-end, nous sommes à Camaret, à l'occasion d'une randonnée, on va vous en parler. On a plusieurs interlocuteurs pour nous faire découvrir ce lieu. Le premier, c'est Maurice Pierre. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Maurice qui est venu avec des renforts. Fais-nous les présentations, Maurice.
Oui, alors ici, j'ai mon adjointe. Moi, je me présente. Alors, je suis donc le responsable de la section randonnée à Lulamire. Lulamire, c'est le centre social de la presqu'île de Crozon. C'est un centre social très dynamique, agréé par la CAF, naturellement. Et nous avons une section randonnée qui est très conséquente et très active. Donc, nous organisons cette randonnée depuis plusieurs années maintenant. Et cette année, nous avons couplé avec la rando Finistère, donc c'est quand même un grand événement. Mais naturellement, je ne suis pas tout seul pour organiser cette randonnée, donc je vous présente Annie Avis.
Bonjour.
Bonjour.
La fonction Annie.
Adjointe, j'aide le mieux possible dans toutes les démarches qu'il y a à faire.
En plus, à côté d'Annie, il y a quelqu'un d'autre.
Alors à côté, c'est Jean-Yves, le président de la fédération de randonnée du Finistère.
Jean-Yves, bonjour.
Voilà, bonjour. Alors donc, je suis Jean-Yves Jaouen, le président donc du comité départemental du Finistère, de la FF Randonnée, et nous organisons avec Maurice Pierre et Lulamire donc cette randonnée de la Presqu'île couplée avec la randonnée Finistère que nous organisons habituellement tous les ans.
On aura l'occasion de parler bien sûr de cela et de tous les chemins de randonnée qui sont nombreux ici en Presqu'île. Maurice ?
Ou alors je ne voudrais pas oublier non plus que les Marcheurs du Dimanche, qui est une association de l'Envéoc, nous donne un sérieux coup de main dans l'organisation de cette randonnée.
Alors l'endroit précis où nous débutons cette balade, c'est un endroit où il y a une petite maison qui fait rêver, on aimerait bien qu'elle soit nous, ça n'est pas le cas, elle est privée, mais autrefois c'était un bâtiment qui avait une fonction très précise.
Oui, alors on ne va pas partir vraiment d'ici, on va partir parce qu'il fallait un lieu de rendez-vous où on puisse garer les voitures. Donc on va partir à 400 mètres d'ici, on va partir du camping municipal. Mais j'ai tenu absolument à ce qu'on passe ici en premier parce qu'effectivement, on est ici à la Pierre du Conseil. Et la Pierre du Conseil, c'est un lieu symbolique à Camaret. Pourquoi ça s'appelle la Pierre du Conseil ? C'est pas dur. La Pierre du Conseil, dans le temps, nos anciens patrons sardiniers, parce qu'il ne faut pas oublier que Camaret était un grand port sardinier, les anciens venaient donc ici observer la mer. Vous voyez qu'ici, on observe toute la mer d'Iroise, qui est sous nos yeux. Et donc, ils palabraient à cette pierre. Et ensuite, naturellement, c'était les anciens. Ils allaient boire un petit coup au corps de garde qui est là.
Donc, le bâtiment, effectivement, qui est là, juste à côté de nous, c'était le corps de garde.
C'était le corps de garde. Et ensuite, avec les pauvres, comme ils pouvaient, ils redescendaient au port, donnaient les informations sur les coins de pêche possibles. Alors, ça, c'est une des solutions. Il y a une deuxième hypothèse qui est, celle-là a été vérifiée au début du... C'est en cas de mauvais temps, les capitaines de navires venaient relâcher à Camaret. C'est un beau port, Camaret, qui est un port de relâche. Et ensuite, donc, ils attendaient que le mauvais temps passe. Et pour voir la fin des tempêtes, ils montaient ici. Et là, ils prenaient leur décision d'appareiller ou d'attendre encore un petit peu la fin des tempêtes. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça s'appelle la Pierre du Conseil. Donc, c'est un peu un point météorologique, une station météo avant l'heure.
Alors, cette Pierre du Conseil, maintenant, elle est pas mal entourée de lierre, mais on la voit quand même. Elle est juste à côté de nous.
Alors, cette Pierre du Conseil est entourée de nous. Alors, ce serait normalement un dolmen chahuté par les humains. Alors, c'est une hypothèse. Elle aurait perdu sa forme et sa fonction originelle, naturellement. Mais ensuite, il y a une autre version qui dit que ce n'est pas du tout un dolmen. Ce serait plutôt un simple empilement naturel de grès armoricain. Et cet empilement naturel de grès armoricain aurait son pendant en face de nous, à la droite du sémaphore du Toulinguet qui est devant nous.
Oui, parce qu'on a une superbe vue. Évidemment, droit devant nous, là, plutôt vers la gauche, on voit la pointe du Toulinguet avec le sémaphore. Et donc, cette autre roche ?
Alors, cette autre roche, les anciens ne manquaient pas d'imagination quand même. Il faut quand même une imagination. Donc, cet empilement de grès armoricain était appelé la tête de Bolchevik. Alors, pourquoi
il avait vraiment de l'imagination. C'était peut-être après de venir boire un coup ici, au corps de garde.
Peut-être que tout est lié, effectivement. Donc, ils avaient imaginé ça, la tête de Bolchevik. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque, le bolchevisme faisait peur. Et quand on regarde cette pierre, effectivement, elle est un peu austère. C'est un simple empilement de grès armoricain qui serait de la même origine que cette fameuse pierre du Conseil.
Ouais, et donc la pierre existait largement avant la révolution russe de 1917. Hein, ça c'est clair.
Je pense qu'elle est elle est bien supérieure, elle est beaucoup plus vieille.
Qu'est-ce qu'on voit si on regarde plus de l'autre côté là, il me semble reconnaître, on voit la rade de Brest. Ces bâtiments blancs là, qu'est-ce que c'est là juste en face de nous, très loin?
Alors là justement, on ne voit plus la rade de Brest. La rade de Brest, elle est plus sur notre droite, elle est un peu masquée ici. Là, on la verra tout à l'heure au cours de la randonnée, on va la découvrir dans toute sa grandeur. Par contre, devant nous là, alors sur la droite, on voit par contre la sortie du goulet de Brest.
Ouais.
Avec le Trésir. Et tout au fond, ce bâtiment blanc qu'on voit tout au fond là-bas, c'est la pointe Saint-Mathieu avec le phare de Saint-Mathieu. Donc c'est le phare et le sémaphore de Saint-Mathieu qu'on aperçoit, les bâtiments blancs au fond qu'on aperçoit là-bas.
Voilà, donc c'est plus la rade, effectivement, c'est le goulet, la sortie du goulet en fait.
C'est la sortie du goulet. Et donc c'est ici que tous les navires marchands prennent leurs pilotes avant de franchir le goulet.
France Bleu Breizh Izel, tous les jours avec vous.
J'ai trouvé l'air conditionné. dans l'automobile que j'ai loué, la ceinture de sécurité est en prime, on m'a la donné. J'ai fait installer la radio à crédit et en stéréo. J'ai un nouveau téléviseur avec satellite en couleur, relié au réfrigérateur qui peut aussi me donner l'heure. Ma vie se résume en ces mots, à crédit et en stéréo. Sont prélevés sur mon compte bancaire si léger. Il reste alors dans mon chéquier des chèques en bois de peuplier. Ils sont dépensés aussitôt en crédit et en stéréo. Pourtant un jour j'ai essayé de mettre de l'argent de côté. Sur la vie je me suis assuré, mais mes quittances sont impayées. Tant pis, je vais mourir idiot à crédit mais en stéréo.
Balade du week-end.
Deuxième partie de notre balade, toujours ici à Camaret. Hein. Là, on est arrivé dans un autre endroit qui est la pointe de Pénir. C'est bien ça, au pied d'un monument bien célèbre.
Oui, alors effectivement, nous sommes à la pointe de Pénir. Ce monument, donc, c'est la Croix de Lorraine, hein, bien connue à Camaret, qui a été inaugurée par le général de Gaulle en honneur des Bretons de la France libre. Hein.
Ce monument, effectivement, nous sommes juste à son pied. On va faire le tour, le petit tour d'horizon. Mais auparavant, Jean-Yves, si on veut se balader sur des sentiers de randonnée, ici, on a que l'embarras du choix. Hein.
Ah oui, ici, nous avons un nombre impressionnant de sentiers de promenade et de randonnée. Et ce qui est de plus essentiel, c'est qu'ici, nous sommes à un carrefour de deux GR, donc de sentiers de grande randonnée. Le GR 34, le sentier des douaniers, qui lui a été élu sentier préféré des Français en 2017. Il part du Mont-Saint-Michel pour aller jusqu'au pont de Saint-Nazaire. 2000 km. À Pénir, nous sommes à peu près au kilomètre 1000. Et de Pénir part également le GR 37, qui va lui aussi jusqu'au Mont-Saint-Michel, mais par la Bretagne intérieure, le Calonne-Bresse, le cœur de Bretagne. Il y aura une inauguration pour le 50e anniversaire du GR 34 au mois de septembre. Nous allons apposer une borne de granit symbolisant donc ces 1000 km du GR 34 et le kilomètre zéro du GR 37.
Si on jette un coup d'œil autour de nous, tiens, je me retourne vers Maurice, donc là on voit le Toulinguet avec un autre angle que tout à l'heure.
Alors effectivement, nous découvrons, parce que nous sommes effectivement sur une pointe, hein, une des pointes ouest de Camaret, donc nous avons toujours sur notre droite, hein, quand on est face à la mer, le Toulinguet, avec l'ouverture du Goulet de Brest, et en dessous du Toulinguet, la plage de Pénat, hein, qui est une anse magnifique, mais malheureusement dangereuse pour la baignade. Par contre, le sable est agréable, hein, pour se faire bronzer la pilule, c'est pas mal. Alors devant nous, vous avez donc un petit passage assez délicat, qui est le passage du Toulinguet, hein, donc c'est assez profond, assez large malgré tout, mais il y a des écueils, il faut faire attention.
Ensuite, dans cet axe, là, on voit un porte-conteneur qui fait route vers Brest, là. Il y a ouvert beaucoup de passages maritimes à cet endroit-là. Hein.
Alors effectivement, d'ici, la vue est imprenable. Hein. Tout le trafic maritime de Brest est là. Et naturellement, les sous-marins nucléaires passent tous par ici et en surface. Hein. Et donc, je sais que pour les touristes, c'est un événement quand ils arrivent à voir un sous-marin. Ils ont vu une grande chose. Régulièrement, ils passent là, donc ils sont toujours escortés, naturellement. Hein. Et autrement, après ça, si on continue un peu notre tour d'horizon, bah, sur la gauche encore un petit peu, on voit toujours la pointe Saint-Mathieu. Et au large, alors on distingue un peu les îles. Les îles de Béniguette, hein, qui est assez, qui fait parler d'elle depuis quelque temps, hein, puisqu'elle a été remise en valeur par le Conseil général. Et ensuite, eh bien, vous voyez, alors, la pleine mer, hein, la mer d'Iroise dans toute sa splendeur. Et en continuant de tourner, un peu en face de nous, on aperçoit également l'île de Saint. Donc vous voyez, on en voit des belles choses, hein, de cette pointe-là. Donc l'île de Saint qui est beaucoup plus plate, avec le grand phare de Saint qui émerge. Quand on continue un petit peu, ensuite on va retourner vers la pointe du Raz et l'ouverture de la baie de Dornanay qui s'étale là sur notre gauche. Et entre les deux, naturellement, bah, je vais peut-être passer la parole à Annie qui va nous expliquer l'état de poids avec chacun son petit nom bien précis.
Ah oui, parce qu'on dit l'état de poids de manière générale, mais en fait ils ont chacun des rochers à son nom en fait. Hein,
oui, voilà. Alors celui qui est près de la terre, c'est le petit Dawé.
Ouais, c'est le plus gros, effectivement.
Le plus gros. Après, il y a le grand Dawé d'abord.
Ah, le grand. Okay.
Le grand. Après, c'est le petit Dawé. Et le plus loin, c'est le Penglas, ça veut dire tête verte. Voilà. Et sinon, il y a aussi la Fourche, enfin, je dis en
français.
En français, et Tas de Blé aussi, qui sont un petit peu plus loin.
Voilà. Donc, Agnès connaît tous les pois par leur petit nom.
Pas tous les petits pois, quand même.
Pas tous les petits pois, mais ceux du tas de pois, en tout cas. D'accord.
Oui, je voudrais préciser aussi qu'ici, c'est un site d'escalade assez renommé. Donc, pour amis randonneurs, si vous venez, si vous voyez des alpinistes, ne vous inquiétez pas, c'est un site d'escalade bien répertorié, avec également un site école hein, qui était très intéressant et très très fréquenté par les écoles.
Tout le monde connaît les tas de pois parce qu'on l'a tous vu forcément plein de fois en photo. Lors de la fameuse régate entre les fêtes maritimes de Brest et de Douarnenez, c'est par là que passent les bateaux et on voit certains bateaux qui passent justement entre les rochers, entre les tas de pois. C'est pas dangereux ça, Maurice ?
Alors effectivement, c'est un spectacle magnifique. Et non, c'est pas dangereux. Hein. J'y suis passé régulièrement avec les bateaux, j'ai pu naviguer. Naturellement, c'est dangereux. Il faut prendre des précautions. C'est pas très large, mais si on choisit bien son chenal, c'est assez profond. Donc du point de vue profondeur, on n'a pas de risque. Le seul risque, c'est l'étroitesse du passage. Et puis c'est surtout spectaculaire parce qu'on passe entre deux énormes rochers. Et pour les gens qui sont sur la côte, c'est grandiose quoi.
On prend des repères pour être bien dans un axe précis.
Naturellement, on a navigué avant, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de matériel comme aujourd'hui. Donc on naviguait à l'œil. Effectivement, on n'allait pas là au hasard. On avait un repère. Hein. Donc le repère en venant du sud, nous on prenait la Louve et un château d'eau qui se trouve à Trégana, un château d'eau pointu. Il suffisait d'aligner les deux, on observait bien notre dérive et ensuite ça passait sans problème entre les tas de poids.
Tu dis la Louve c'est le nom d'une des balises. Il y a des drôles de bestioles ici parce que le rocher là, il s'appelle comment celui à côté de la Louve ?
Alors à côté de la Louve, c'est le lion bien sûr. Mais ici les Bretons, il y a de l'imagination, faut pas croire.
France Bleu Brest Isel Weekend. Michel Pagès.
Une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme, qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, veux pas trop Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Balade du week-end.
Troisième et dernière étape de notre balade ici à Camaret, hein, à l'occasion de la randonnée qui se déroule aujourd'hui même. Alors là, on a pris un endroit, on est passé par un hameau qui s'appelle le Grill, c'est bien ça ?
Alors le quartier est d'Argrill, ça s'appelle. Alors, on est passé par l'Argrill pour arriver donc sur le sentier vers la pointe du Gouin. Alors actuellement, nous sommes à la pointe du Gouin, et donc vous voyez, avec Camaret en dessous de nous, et plus toute la baie de Camaret, donc la baie de Camaret. Hein. Pourquoi le radical de Camaret, hein, c'est Cam, hein, et donc ça voudrait dire lance courbe au fond de laquelle se trouve la ville de Camaret.
Ça viendrait de là, donc Camaret, c'est à cause de la courbe où se trouve la ville, le port. Rien à voir donc avec le sillon, hein, c'est l'anse dans laquelle a été construite la ville.
Effectivement, c'est là que les bateaux venaient en relâche parce que vous voyez, c'est très bien protégé, c'est une belle courbe, hein, c'est une belle baie. Quoi, hein. Donc le nom de Camaret, on pense qu'il viendrait de la courbe de l'anse de Camaret.
Voilà, donc explication du nom, il faut venir à la pointe du Gouin pour réussir à comprendre pourquoi la ville s'appelle comme ça. Alors évidemment, ce qui attire le regard quand on a Camaret, là on voit très bien depuis ici, c'est le sillon avec la chapelle et la tour Vauban, la chapelle de Rocamadour et la tour Vauban.
Alors effectivement, on domine parfaitement donc tous les quais de Camaret, les quais de Camaret, et son sillon avec sa chapelle et la tour Vauban, donc je rappelle la tour Vauban qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a eu des travaux importants qui sont faits et qui se terminent, qui est maintenant magnifique, franchement, les travaux c'est une belle réussite, et l'inauguration aura lieu d'ailleurs courant juin.
On voit aussi dans le lointain la fameuse plage de 13 roses, hein, la grève rouge, et tout ça, ça nous ramène à une bataille. Alors Annie, elle la connaît bien cette bataille. Une bataille qui a eu lieu en quelle année au fait ? Non, Annie n'était pas née, je vous rassure tout de suite, mais Annie s'intéresse à cet événement qui s'est déroulé en quelle année ?
En 1694, le 18 juin, et c'est la tour Vauban qui a servi, elle avait 9 canons, et c'est la seule fortification de Vauban qui a servi à faire fuir les Anglais et les Hollandais. Il y a eu de leur côté à peu près entre 1700 et 1800 morts, et du côté français que 45, heureusement pour Camaret. Et c'est un boulet anglais qui a fait tomber le clocher, malheureusement, de la chapelle Rocamadour.
Et alors, si on appelle la plage 13 roses, la grève alors, rouge, ce serait ça, alors à cause ?
Oui, on dit que ça serait peut-être à cause de tous ces sangs des Anglais et des Hollandais. Maintenant, c'est peut-être aussi un point de vue géologique aussi, parce qu'il y a de la pierre rouge à 13 roses.
Ouais, les deux sont possibles.
Deux sont possibles. Mais enfin, on n'était pas nés à l'époque, donc...
Il y a un autre lieu qui évoque, alors fort probablement cette fois-ci, le conflit. Hein, c'est à côté, tout à côté.
À côté, oui, on appelle ça une petite crique qui s'appelle la petite mort anglaise.
Donc là, effectivement, ça doit vraiment avoir un rapport.
Corps, on suppose que beaucoup de corps ont échoué sur cette petite plage. Ils ont été massacrés. Il y a d'ailleurs beaucoup de camarétois, je ne sais pas, à l'époque on ne disait pas camarétois, mais beaucoup de personnes qui sont venues les achever sur la plage.
Oui, c'est pas très sympathique. C'est pas très classe, ça, quand même.
Pas très classe, mais bon, c'était la guerre.
On va dire qu'à prescription, parce que c'était quand même en 1694, donc ça remonte à un certain temps en arrière.
Oui, donc il faut préciser pourquoi ils sont venus à Camaret, parce que c'est pas Camaret naturellement qui était visé, c'était Brest qui était visé. Mais le Goulet, c'était quand même un peu infranchissable déjà le Goulet à l'époque, donc ils se sont pensés en venant à Camaret, ouais, ça va être facile. Ouais, pas de peau, ils sont tombés sur un os.
Effectivement, c'était un endroit qui servait beaucoup pour la défense du Goulet, donc la défense de la navigation, donc du commerce.
Complètement, c'était stratégique. Prendre Brest et le Goulet, c'était stratégique pour eux, et ensuite il y avait une porte ouverte pour envahir toute la France.
Plus récemment, le port de Camaret, c'était un port très important.
Ah oui, mais ne pas oublier qu'on était le premier port langoustier de France, quand même, hein, et même d'Europe. Hein, c'était le premier port langoustier d'Europe, hein, parce que de France, c'était évident, mais d'Europe, c'était pas évident, il fallait le faire. Mais Camaret a réussi à être le premier port langoustier d'Europe. Et à l'époque, il y avait une activité quand même qui était très importante, c'était vivant, c'était avant. Mais c'est toujours très vivant et toujours très convivial. Il faut venir à Camaret, venir marcher à Camaret quand même. Hein. C'est très très beau. On a vu des paysages grandioses. Hein.
Si on s'intéresse de près comme ça aux bateaux. Tous les bateaux qu'on voit maintenant sont tous des bateaux de plaisance ou est-ce qu'il y a encore quelques bateaux de pêche ?
Alors, il y a encore un petit peu d'activité de pêche, mais enfin, c'est quand même assez marginal. marginal malgré tout. C'est quand même essentiellement la plaisance. Malheureusement, la pêche, il n'y a plus que des petits bateaux côtiers.
Quelqu'un qui viendrait comme ça un jour, je ne sais pas, un dimanche après-midi, qui n'est pas un grand sportif, qui a envie de se balader un petit peu, on laisse sa voiture sur un parking quelque part, et on peut faire une petite balade cool, tranquille, comme ça, genre 2 heures, 3 heures maxi, en famille, éventuellement avec des gamins, c'est jouable.
Ah, sans aucun problème, sans aucun problème. Ce qu'il faut faire, il faut aller vers la plage du Corrijou. Au-dessus de la plage du Corrijou, il y a un parking, il y a de la place. Là, vous avez le sentier côtier qui part directement de la plage du Corrijou. Vous ne pouvez pas vous tromper. Au bout du quai, vous avez la plage, vous montez, le sentier est très bien indiqué, c'est le JR34, hein, qu'on en parlait tout à l'heure. Et là, vous le montez, vous arriverez où on est actuellement. Déjà, vous allez découvrir une vue qu'on n'est pas habitué à voir, qui est une vue magnifique. Et si vous continuez un peu, ensuite, vous arriverez donc vers le Toulinguet. Vous aurez le Toulinguet devant vous, le Lance des Pénates, et vous aurez une vue sur la pointe de Pénir avec ses tas de poids. C'est franchement une vue grandiose. Et même s'il ne fait pas très beau, alors ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive quand même, eh bien, vous verrez que les couleurs sont toujours magnifiques, elles sont changeantes, et vous aurez un souvenir inoubliable.
Fin pour nous de cette balade à Camaret, autour de Camaret, avec Maurice Pierre, Annie Avis, Jean-Yves Jaouen, qui sont les organisateurs de la rando Finistère, rando Presqu'île, qui se roule ce jour même, en ce moment même. Hein, les premiers sont partis ce matin vers 8h, il y a des longs circuits, ça peut aller de 7 jusqu'à 29 km, mais vous pouvez, si vous avez envie, aller faire un petit tour, pourquoi pas maintenant d'ailleurs, hein, puisque tous les départs sont échelonnés, le départ à partir du camping municipal de Camaret, tous les départs sont échelonnés jusqu'à 15h30.